Salut tout le monde et bienvenue à une autre édition de Sortie de zone, édition du 15 février 2021. Mon nom c'est Jérémy Filosa. Écoutez, on s'est dit la semaine dernière, oh, il reste juste un match, pause d'une semaine, on n'aura pas grand-chose à dire la semaine prochaine. Ben oui, toi, ben oui, Byron au balotage, Tatar laissé de côté. Non, ce ne sont pas les sujets qui manquent en plus du point de presse de Marc Bergevin cet après-midi. Donc, on va tout de suite commencer étant donné qu'on a du pain sur la planche. La planche, oui, voici nos invités pour l'émission d'aujourd'hui. Guillaume Lefrançois de La Presse qui est en studio avec moi aujourd'hui. Salut Guillaume.
Salut Jérémy.
Jérémy Rainville, qui est bien sûr branché sur sa ligne. Salut Jérémy.
Salut Philo.
Jérémy du 98.5 FM, bien sûr que vous connaissez très bien. Et Michael Lalancette dans nos studios à Québec. Salut Mick.
Salut.
Alors les gars, on perdra pas de temps. La première chose que je veux débattre, c'est la réaction sur le dossier de Paul Byron. Là, on en a appris un petit peu plus avec Marc Bergevin aujourd'hui qui nous a expliqué que à prime abord, à la base, c'est une question business, c'est-à-dire que là, on a une semaine de congé, on était pas mal confiant que Byron ne serait pas réclamé par une autre équipe, donc ça nous permet d'économiser un peu d'argent qui va aller dans les bonis de certains joueurs qu'on n'aura pas à piger dans le coussin de l'année prochaine, mais quand même, c'est quand même un assistant capitaine qu'on place au balotage. C'est jamais facile pour un joueur. Marc Bergevin a quand même avoué que si t'es placé au balotage, parce que ça va pas trop bien. Guillaume, première réaction à ce que t'as entendu de Marc Bergevin aujourd'hui.
Ben, moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est que Bergevin a parlé, et je pense que j'ai jamais vraiment entendu un DG parler comme ça. Il a parlé du balotage comme d'un outil.
Et ça, mais c'est vrai que c'est un outil.
Ben c'est ça, ben exactement. Puis ça, je pense que Bergevin a vu les choses aller depuis quelques semaines. Il a vu tous les joueurs, tous les vétérans qui sont passés par le balotage et qui ont tous pas été réclamés. Donc, dans sa tête, il était convaincu que Paul Byron ne serait pas réclamé. Donc, pour lui, ben c'est ça, c'est un nouvel outil. J'avoue que ça fait drôle à entendre, mais c'est ça la LNH en temps de pandémie, en temps de plafond salarial fixe.
Et aussi, pour une équipe comme le Canadien qui dépense au plafond maintenant, t'es obligé d'utiliser tous les outils à ta disposition.
Ben c'est ça, exactement. Donc c'est pour ça. Donc oui, ça devient un outil, mais ensuite de ça, c'est sûr que justement, Paul Byron de son côté, ben doit se poser des questions sur son rendement parce que c'est sûr que s'il avait été productif, une équipe l'aurait pris là, ce contrat-là. Il n'est pas en ce moment. Donc, c'est un message, mais c'est ça. D'une perspective de DG, je trouve que c'est intéressant. Mais de toute façon, son calcul tient tout à fait la route. Je disais qu'il y a beaucoup de vétérans qui n'ont pas été réclamés. Et d'un autre côté, si une équipe voulait vraiment avoir Paul Byron, des gens disaient, par exemple, les Sénateurs, ça pourrait être logique. Pourquoi tu irais le chercher au balotage et prendre son plein salaire pour les prochaines années? Quand tu pourrais soit peut-être essayer d'aller chercher dans une transaction en demandant aux Canadiens de retenir une partie du salaire, ou même à limite, et là tu penses à long terme, mais tu dis, est-ce qu'on attend l'été d'un coup que son contrat soit racheté, puis là, bon, on va le chercher pour moins cher rendu à l'été. Tu sais, c'est tout plein d'autres options qui sont meilleures pour les autres équipes que d'aller le chercher au balotage avec son plein salaire.
Ben, Jérémy, est-ce qu'on va mettre Byron véritablement sur le taxi squad ou c'est juste une technicalité, puis quand la semaine va reprendre d'ici jeudi ou vendredi, on va retrouver Byron sur son trio à lui?
Moi, je suis convaincu que c'est une technicalité. On va le revoir, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ça va prendre quelqu'un d'autre qui bouge, ça, c'est sûr. Si on regarde Corey Perry, mais tu sais, moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle d'électrochoc. Oui, c'est un outil financier, comme Guillaume le mentionnait, mais c'est un électrochoc pour Paul Byron. Puis je vais vous dire pourquoi. Dans la défaite de 3-0 face aux Oilers d'Edmonton, Paul Byron était là dans les commentaires d'après-match. Et Martin McGuire, pendant l'après-match, lui pose une question sur l'équipe, sur la qualité du jeu de l'équipe. Paul Byron ne comprend pas bien la question et répond sur son jeu à lui, individuellement.
Okay.
Et il disait, oui, c'est vrai que je patine pas assez. Oui, c'est vrai qu'il faut que j'en donne plus. J'ai l'impression que le message avait déjà été lancé à Paul Byron, qui devait retrouver son coup de patin, retrouver la fougue qu'il amenait pour l'équipe. Et là, pour moi, c'est juste la suite logique de tout ça. En plus de l'exercice financier, c'est la suite logique. Je pense pas que c'est fini. La question est, on a les outils, on le sait que là, à moins qu'une équipe canadienne vienne le réclamer, puis ça a pas été le cas, on a les outils, sont en place pour justement aider pour le plafond salarial. Maintenant, c'est un électrochoc. C'est allume. Il faut que tu retrouves ton énergie. Il faut que tu retrouves le coup de patin qui a fait en sorte qu'il ait été capable de se signaler avec le Canadien. Oui, les années avancent, mais même Byron, à 90% de son coup de patin, il est pas mal plus rapide qu'une maudite en Ligue nationale. Fait que donc, je pense que c'est un électrochoc pour moi.
Michael, Paul Byron, est-ce qu'il méritait d'être placé au balotage? Probablement que l'équipe du Canadien de Montréal d'il y a un an, avec Byron dans la même situation, il se retrouve pas au balotage. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que la réalité du Canadien a changé, puis c'est un message qu'on veut passer, puis non seulement à Paul Byron, mais je pense à peut-être d'autres joueurs aussi de l'équipe là, dont la contribution est plutôt décevante depuis quelques semaines. Tu sais, on regarde, il y a des joueurs là qui ont repris là où ils l'avaient laissé. Si on enlève un peu les séries de cet été, il y a des gars qui ont repris leur séquence creuse là de la fin de saison de l'année passée avant que tout ça s'arrête. Oui, il y a l'aspect, bon, je m'amusais un peu ce matin en disant, si le Canadien était un gouvernement, on parlerait de créativité fiscale, là, la façon d'un gouvernement d'essayer d'aller chercher toutes sortes de taxes, de rentrées d'argent à gauche, pas à droite. Oui, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect de lancer un message. Puis, tu sais, Marc Bergevin en a lancé plusieurs des messages ce matin, là, quand il a dit on s'attend à plus. Là, c'est que on réalise l'urgence de la situation, même si je veux pas dramatiser la situation actuelle, ça n'en demeure pas moins qu'on est au quart de la saison, puis tu veux pas que ton bon début de saison, ça se mette à déraper. Là. Puis là, c'était le temps que le Canadien aille chercher des points. Alors moi, je pense que oui, il y a un aspect message là-dedans. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Bon, maintenant, les gars, moi, j'étais convaincu en début de saison que Paul Byron retrouverait de son aplomb. Là, est-ce que c'est parce qu'il est sur le quatrième trio? Peut-être qu'il est moins intéressé, moins motivé ou quoi que ce soit? Parce que là, on revient au fameux combat contre Mackenzie Weegar. On s'en souvient, là, où il s'était fait passer le KO. Il avait passé plusieurs semaines sur la liste des blessés, commotion cérébrale et tout ça. Mais regarde, on retourne à ce moment-là, là, puis il a jamais été le même joueur.
Ben, ça dépend, par exemple. Parce que moi, honnêtement, dans les séries, je l'ai trouvé très bon.
Et c'est pour ça que j'ai pensé que cette année...
Ben, c'est ça, tout à fait. Puis en même temps, tu sais, oui, théoriquement, en série, il était troisième trio, là, il est quatrième trio, mais en même temps, il était dans le même trio qu'Arturi Lehkonen. Donc, je veux dire, oui, dans la hiérarchie, on descendu, mais dans les faits, il y a le même allié de l'autre côté. Et puis là, ben, je veux dire, Jake Evans, quand même, on s'entend, oui, c'est une recrue, mais c'est pas le pire service qu'on fait à des joueurs en les plaçant avec Jake Evans, je veux dire, qui se débrouille quand même très bien pour une recrue. Donc, je veux dire, je pense que ce trio-là avait les éléments pour être un bon trio. Et puis, ben, c'est ça, je veux dire, dans les séries, on a vu que Byron était capable de retrouver son niveau de ses belles années. Donc, pourquoi c'est pas de retour cet automne? C'est très, très dur à expliquer.
Où sont toutes ces échappées, Jérémy? Tu sais, les échappées fameuses qu'on connaissait de Paul Byron, on recule il y a 3 ans.
Oui, exactement, mais souvent, ça se passait en désavantage numérique.
Oui, c'est vrai.
C'est Toffoli qui a pris le lead en désavantage numérique pour aller marquer des buts par moment. Mais, tu sais, je regarde là, présentement chez les attaquants du Canadien, Paul Byron n'a aucun but en 14 matchs. C'est aucun vrai. But, 3 passes. Tu sais, et un autre qui est passé un peu dans le tordeur ce matin, gentiment, là, vous allez me dire, la part de Marc Bergevin,
c'est Philippe
Dano. Ouais. Philippe Dano a aucun but. Il a 6 passes, parfait, mais t'as aucun but. Ça enlève rien sur le travail que Dano peut amener, mais en quelque part... Quand t'es rendu dans le cas de Philippe Dano à 15 matchs, t'as aucun but de marqué. Là, ça se peut que quelqu'un dise à un moment donné, c'est parce que Philippe, faudrait t'en mettre dedans. Il faut que ça commence, là. T'as pas le choix. On a besoin de la production offensive de tous et chacun. Fait que là, tu sais, là, il y a plusieurs choses qui se trament. Là, on a vu Tatar qui était laissé de côté. Mm-hmm. Là, on voit Paul Byron qui est soumis au ballottage. Là, il y a Frolic qui s'en va faire du conditionnement, reconditionnement avec le Rocket. Est-ce que ça veut dire que Frolic va revenir dans la formation? Si on l'amène au centre, ça veut dire qu'on va sortir un joueur de centre. Si on sort un joueur de centre, on sort qui? Tu sais, vous comprenez-vous l'histoire, là? C'est on veut pas être complaisant chez les Canadiens, puis on veut que tout le monde soit à 100%. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu allumes en quelque part. Et quand t'as pas marqué de but en 15 matchs, le message, tu dois le prendre, puis tu dois changer, modifier certaines choses.
Bon, on va en parler de Tatar dans quelques instants, mais si vous avez écouté le point de presse d'aujourd'hui, Marc Bergevin a pointé 3 joueurs. Bon, Paul Byron, il a dit on s'attend à plus de lui. Même chose du côté de Tatar. Il a aussi lui-même mentionné Philippe Dano, ce qui m'a surpris un peu parce que Claude Julien, la semaine dernière, a quand même dit qu'il était satisfait de son travail lorsque la question lui a été posée. Puis je pense que c'est Guillaume, c'est même toi qui a posé la question, je crois, aujourd'hui à Bergevin en lui demandant, y a-t-il une coïncidence dans le fait que t'as 2 joueurs sans contrat, puis ça s'adonne que c'est 2 joueurs de qui tu t'attends plus.
Ben, c'est ça, exactement. Puis de l'autre côté, Jeff Petrie, Brandon Gallagher, des cas qui a réglé à l'automne, donnent leur plein rendement. Puis on pourrait même ajouter les nouvelles acquisitions de cet automne qui ont eux aussi de la stabilité à long terme, c'est-à-dire Allen, Edmondson, Toffoli, Anderson. Donc, en tout cas, moi, je trouvais que c'est une question qui se soulevait. Marc Bergevin voulait pas aller là, peut-être parce qu'il voulait en même temps éviter de commenter publiquement les négociations, ce qu'il aime pas toujours faire, ouais. Même s'il le fait des fois. Donc, je me demande, particulièrement dans le cas de Dano, en fait, je me demande si ça pose un problème. Dans le cas de Tatar, je pense que si Tatar est réaliste, s'il est le moindrement conscient de ce qui se passe, je pense qu'il devait se douter que de toute façon, c'était probablement ailleurs qu'à Montréal qu'il allait avoir son prochain contrat. Mais par contre, c'est sûr qu'il n'y a pas la saison en ce moment qui va lui permettre d'aller chercher un bon contrat de 3-4 ans rendu à la fin de la saison.
Gaël, toi, est-ce que tu embarques dans ce que Marc Bergevin dit? Parce qu'aujourd'hui, là, de la façon dont il a parlé, c'est qu'il nous disait, tu sais, on savait qu'il ne serait pas réclamé. Je pense pas que, tu sais, c'était pas le but de le perdre. Le but, c'était plus une équation mathématique. Est-ce que selon toi, le Canadien espérait que quelqu'un réclame Paul Byron pour justement se libérer de ce contrat-là?
Ben moi, je pense que oui. Parce que là, on regarde un petit peu l'organigramme du Canadien, puis je l'ai dit un petit peu tantôt, les responsabilités de Paul Byron ont diminué. Son utilité, si tu n'amènes plus l'aspect rapidité, d'être imprévisible sur la glace, c'est un gars qui a de l'énergie, tout ça, si tu n'amènes pas ça, tu amènes quoi? Mm-hmm. Tu sais, faut que tu marques des buts à un certain moment donné. Puis, tu sais, oui, moi aussi, je suis convaincu que l'aspect contrat change ou joue dans la tête de quelques joueurs, c'est certain. Tu sais, ce sont des humains, même si ce sont des athlètes qui sont des bons compétiteurs et tout ça,
oui.
Ça entre dans la ligne de compte. Mais tu sais, je regarde Philippe Dano, l'année passée, avant, je reviens un peu là-dessus, mais cet été, oui, si on enlève le hockey d'été, là, Dano, c'est un but à ses 23 derniers matchs l'année passée. Alors là, il est sur une séquence incroyable, près de 40 matchs avec un seul but. Jonathan Drouin, c'était 1 en 14. Lui non plus, on peut pas dire que c'est une grande contribution du point de vue des buts marqués cette année. Kéké, c'est un but à ses 12 derniers matchs l'année passée. Alors, t'ajoutes ça à sa séquence de cette année, bon, il y en a deux. Donc, tu sais, là, ça veut dire que ça fait reposer des attentes sur des épaules de... Oui, des joueurs qui ont connu des bons débuts de saison, on pense à Toffoli, à Anderson, mm-hmm. tout ça, mais ça doit pas être seulement ces gars-là qui contribuent. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est un peu ça le message de Marc Bergevin ce matin, de dire, ben, il l'a pas dit comme ça, mais en gros, il faut de la contribution de plus de monde si on veut être capable de survivre à des périodes comme actuellement, parce que le Canadien, après 15 matchs l'année passée, après 15 matchs cette année, ils ont marqué moins de buts cette année. C'est dur à croire, là. On est resté avec l'impression que le Canadien marquait des buts. Les comptes, les Canucks, ça allait bien. Mais tu sais, quand tu regardes 15 pour 15 matchs, l'attaque a profité moins cette année que l'année passée. Donc, moi, je suis convaincu que si Marc Bergevin avait eu la nouvelle que Paul Byron était réclamé, ça aurait fait son affaire. Convaincu de ça.
Moi, je lève la main, là. Je lève la main, tu m'as pas vu, mais je lève la main, là. ce que je veux dire, là, c'est que juste revenir sur Paul Byron, là, je comprends l'histoire que Paul Byron amène pas la rapidité puis amène pas l'attaque, comme je le mentionnais, puis je suis d'accord avec Mick là-dessus. La seule chose, je sais pas si vous avez regardé le calendrier, là, ce qui s'en vient, là, il va avoir beaucoup de matchs, 4 matchs par semaine, 3 matchs par semaine. Il va avoir des blessures. À un moment donné, là, tu sais, aujourd'hui, là, on a de l'air à acheter nos choux gras, là, mais à quelque part, on va avoir besoin de Paul Byron à un moment donné, puis il va revenir dans l'équation, puis il va peut-être connaître une séquence où il va marquer des buts en désavantage numérique, il va être capable de contribuer. Et quand j'entends Mick nous parler de Jonathan Drouin en disant t'as besoin de plus que de lui d'un point de vue offensif, je suis d'accord. Mais la seule chose, c'est qu'il est avec un des bons trios du Canadien, celui de Suzuki et Josh Anderson. Fait que donc, Drouin, non, ne marque pas, mais aide Anderson et Suzuki à connaître quand même une bonne saison offensivement et créer des chances. Fait qu'en quelque part, tu sais, tu peux pas nécessairement te mettre à taper sur Drouin, puis tu peux pas te mettre à taper sur Byron immédiatement. Il va falloir attendre. C'est le fun, on a 15 matchs de jouer, mais je vous le dis, regardez le calendrier, là. Fin février, le mois de mars, le mois d'avril, j'espère que vous aimez ça, le hockey, parce qu'il va en avoir pas mal
ben
plus
oui.
que tout le monde en demande, là, c'est sûr. Là.
Ouais, moi, la petite chose que j'ajouterais sur Byron, je pense que si on se reparle cet été, oui, peut-être que là, Marc Bergevin serait content que Paul Byron trouve preneur, mais je pense que pour le reste de la saison, il en a besoin. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'il n'y a peut-être pas une grande profondeur ensuite de ça sur les ailes, si pour le bas de la formation, du moins si Byron s'en allait. Tu sais, je vous ai Corey Perry, on l'a vu là, je vous ai dans certains matchs, il est beaucoup plus discret. Dans la Ligue américaine, t'as qui? T'as Jordan Will, t'as Frolic, ça va, mais tu sais, je sais pas. C'est pas comme si t'avais des jeunes qui attendaient seulement, qui sont prêts à exploser dans la Ligue nationale, tandis que l'an prochain, ben là, tu vas avoir Payling qui aura une saison de plus de Ligue américaine dans le corps. T'as Cole Caulfield qui, Bergevin l'a dit aujourd'hui, devrait faire le passage chez les pros à la fin de la saison. Tu vas avoir plus d'options rendues là, mais pour le reste de la saison, je pense que t'as quand même besoin de Paul Byron, même si tu lui fais sauter son tour de temps en temps.
Bon, y a-tu d'autres choses qui vous ont sauté aux yeux dans le point de presse de Marc Bergevin d'aujourd'hui? Là, il a encensé Tyler Toffoli, Josh Anderson, très satisfait de leur performance et tout ça. Lorsqu'on lui a parlé de la ligne de centre, il a dit, à un moment donné, il a utilisé le mot solide. Ils ont été solides depuis le début de l'année. Je m'attendais peut-être pas à ce mot-là. Tu sais, je comprends qu'il veut backer ses gars, puis il trouve pas ça désastreux, puis il nous a répété à quel point, tu sais, des gars comme Suzuki et Kotkaniemi, c'est encore des jeunes, puis tu sais, il y a de l'évolution à faire, mais j'étais un peu surpris de l'entendre dire que ça a été solide depuis le début de l'année.
Ben, j'ai l'impression que ces messages sont comme à passer dans trois catégories. Tu parles des joueurs solides, la ligne de centre, tout ça. Je mettrais ça dans la catégorie protéger des joueurs. Donc, je pense qu'il a voulu protéger ces jeunes, surtout, et principalement Kotkaniemi. Je pense que s'il avait trop vanté un ou l'autre, bon, ça aurait peut-être justement jeté un peu plus de lumière sur Kotkaniemi. Il a réglé ça en défendant les trois ensemble, Suzuki, Evans, Kotkaniemi, en disant justement c'est solide tout ça, sans rentrer dans le cas par cas. Ouais. Tout le monde le sait que Kotkaniemi n'a peut-être pas le début de saison à la hauteur des attentes.
Ouais.
Il a voulu le protéger parce que c'est jeune. Donc, protéger ces jeunes, encenser tous ces nouveaux venus. Je pense que tous les nouveaux venus du Canadien ont eu de bons mots. Puis c'est pas juste Bergevin qui essaie de se faire bien paraître. C'est vrai qu'ils ont tous été très bons. Jusqu'ici. Et l'autre catégorie, ben, c'est ces vétérans qui restent de l'an passé. Et puis, c'est peut-être eux, justement, qui ont plus reçu les petites baffes.
Les tomates, oui, exactement. Les gars, faut parler un petit peu de Thomas Tatar parce que samedi après-midi, ou en début d'après-midi, je discute avec Martin McGuire en ondes. Et là, je lui pose la question. Tu sais, on se demandait à ce moment-là qui va être laissé de côté. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a un attaquant qui fait partie du noyau qui pourrait sauter son trou? Et j'avais en tête Tatar, mais je l'ai pas mentionné. Martin a dit, je penserais pas, mais en tout cas. Là, par contre, tu sais, Jérémy, c'est toi qui parlais du comité des malheureux là, la semaine dernière. Ouais. Là, tu vas avoir des gars, un gars placé au ballottage, un gars qui a été laissé de côté, qui a été ton attaquant le plus constant des dernières années, Thomas Tatar. Là, il y a un premier passage à vide. Là, il se retrouve dans les estrades. C'est quand même un jeu dangereux, je trouve, que Claude Julien joue. Parce que si tu commences à te mettre des vétérans à dos, ça peut commencer à déraper, même si on a un début de saison qui a de l'allure, là, mais je sais pas. Je me mets dans la peau de Thomas Tatar, puis je suis probablement pas de bonne humeur aujourd'hui.
Quand j'ai vu des images à TVA Sport, puis on se questionnait à savoir pourquoi Thomas Tatar avait été justement retranché de la formation sans être blessé, donc il était LT scratch, ouais. Et puis on montrait des images du match contre Edmonton quand Tatar a été rétrogradé sur le troisième trio, si on peut dire, là,
ouais.
quand Toffoli a changé de place avec lui, et là on montrait un coup de pied dans la bande, puis tu sais, il maugréait sur le banc, puis ça on montrait ça. Fait que donc je me suis dit, tu sais, le gars a essayé de faire savoir qu'il était pas content. Quand même, moi, je trouvais qu'il avait pas joué un vilain match.
Mm-hmm.
Mais, tu sais, c'est le genre de choses que, tu sais, c'est un vétéran. T'es un gars que tu veux avoir un nouveau contrat parce que t'es joueur autonome. Tu sais, commence pas à babouner. Oh, y a-tu une petite tape ses doigts qui font en sorte que tu dis, OK, là, t'arrêtes de babouner puis tu commences à jouer. Moi, je pense que c'est un pro. Il va saisir le message puis j'ai aucun doute que ce gars-là va revenir tout feu, tout flamme. Et je le souhaite pour lui parce que sinon, quand t'arrives à ta dernière année de contrat puis tu commences à embarquer on le mentionnait.
Ben,
syndicat des malheureux, là, ça va pas bien.
Non, c'est ça. Mais Michael, au moins, Tatar, jusqu'à maintenant, nous a semblé être un gars assez positif d'esprit. C'est quand même un gars qui a une bonne attitude. Là. C'est pas un gars qui a causé des problèmes ou quoi que ce soit. Donc, en espérant que, justement, le message qu'il saisisse soit le bon. Puis en même temps, je me demande si on n'a pas eu des discussions avec certains joueurs d'avance en leur disant, écoutez, là, parce que là ça, les gars, ça fait 3 semaines là, que à tour de rôle, il y a des gars qui sautent leur tour. T'sais? Puis moi, je c'est pas la fin du monde, là. Puis si on veut le dire publiquement qu'on va donner des repos occasionnellement à des gars, moi, je suis prêt à vivre avec ça. Mais je pense pas que c'est ça qui est le cas présentement, là, Michael. C'est pas une question de reposer des gars, là.
Non, parce que tu regardes les gars qui ont eu des repos entre guillemets, c'est généralement des gars, on peut pas dire que c'est qui étaient au sommet de leur art là. À ce moment-là, ça donnait bon comme ça là, peut-être à peu près un match un petit peu plus difficile. Je dis pas que les gars méritaient nécessairement d'être laissés de côté, mais tu sais, ça me semble que ça donnait donc bien là, d'en laisser un de côté, de donner une soirée de congé à quelqu'un. Mais tu sais, dans le cas de Tatar, écoute, tu regardes, t'enlèves les deux premiers matchs de la saison, après ça il a été invisible. Puis tu sais, moi je rejoins Marc Bergevin ce matin quand il nous dit ben c'est basé sur les performances. On va prendre les décisions en fonction des performances. Moi, j'achète ça. Parce que là, tu es dans une saison de performance, justement. Tu veux avoir des résultats. Puis, il les a pas livrés sur la glace. Fait qu'à un certain moment donné, s'il y a eu des discussions à l'interne, puis on sent qu'il se passe rien. Tu sais, Thomas Tatar, là, depuis le début de la saison, il y a eu des matchs qui étaient complètement invisibles. On l'a pas vu dans certains matchs. Il était sur la glace aussi plus souvent qu'autrement pour début de l'adversaire. Alors, Moi je pense que c'était à point. Puis tu sais, dans le vestiaire, les gars du Canadien ont dit aux membres des médias que justement c'était un des gars qui était très souriant après la dernière victoire, qui était derrière ses coéquipiers. On veut une attitude positive. C'est pas dans le genre de saison que justement on veut des babounes, puis on veut du boudage. Puis fait que ça doit rester constructif. Puis tu dois livrer les performances sur la glace. C'est une saison comme celle-là. C'est plus le Canadien de l'année passée puis il y a deux ans où est-ce que bon ben sur l'équipe est jeune, puis on se permet d'être Non, on veut de la performance, donc faut y aller là.
Bon. Est-ce que je peux ajouter quelque chose?
Ben oui.
Tantôt, t'as demandé, Philo t'a dit, est-ce que vous retenez quelque chose du point de presse de Marc Bergevin?
Ouais.
Moi, je retiens lorsqu'il a dit, puis écoute, je paraphrase, c'est pas les mots qu'il a dit carré, là, mais il a dit, tu sais, souvent, quand on connaît du succès, ça amène des mauvais plis. Tu sais, il y a des petits détails qu'on fait moins, puis tout ça. Ça, pour moi, là, moi, ça, je trouve ça décevant. Parce que, on a tellement vanté l'expérience de Coupe Stanley, des gars qui sont arrivés, puis le leadership à l'interne, je me suis dit, je le sais que c'est humain, je le sais que c'est normal, mais je trouve que la séquence a été quand même longue avant qu'on arrive à revenir à des bonnes habitudes de travail. Tu sais, on peut pas dire que dans le dernier match, puis je sais qu'on va en reparler,
bon,
là, mais
non.
T'sais, les deux premières périodes, là, c'était pas super. La troisième était très bonne, mais les deux premières, c'était pas super. Et ça, c'est la lignée des matchs contre Edmonton, contre Toronto, contre les deux match contre les Sénateurs d'Ottawa. Et là, si on dit qu'à l'interne, on est capable d'avoir ce leadership nécessaire et que Marc Bergevin dit aujourd'hui, tu sais, le succès peut amener des mauvais plis, je me dis, il y a du monde qui prenne ça à légère. Il faut pas prendre ça à légère. Et je pense pas que, tu sais, c'est pas des imbéciles. C'est clair qu'à un moment donné, tu vois quand ça marche, tout le monde est heureux, ça va bien. Mais là, il faut que tu mettes tes bas de travail.
Bon, ouais,
c'est clairement le cas. Là.
Mais écoute, tout n'est pas au beau fixe, les gars. Ben on va se le dire. Tu viens de battre les Maple Leafs, tant mieux. On prend les deux points, puis on sauve avec. Mais je pense pas que dans le vestiaire du Canadien ce matin ou à l'entraînement dans le gymnase, tout le monde était convaincu que, regarde, on est de retour et tout ça. Parce que les deux premières périodes, ça a été assez difficile, merci. Surtout la première. Au moins, Carey Price a connu un bon match. On attendait Carey Price. On attendait qu'il nous en sorte une grosse. Il nous en a sorti une grosse et c'est pour ça qu'on sort de là avec une victoire. Tant mieux. On attendait ça depuis un bout de temps, mais tout n'est pas réglé, là, Guillaume.
Ben c'est ça, exactement. C'est clairement pas réglé. Si je peux, pour cette fois-ci, être le gars qui voit le verre à moitié plein, par contre, j'ajouterais que malgré une mauvaise séquence de 5 matchs, le Canadien s'en tire quand même avec 4 points sur 10, ce qui est la preuve que je pense que les creux qu'on a vus dans les dernières années seront peut-être pas aussi creux cette année parce
qu'il
y a un assez bon niveau de talent quand même dans cette équipe-là pour qu'ils s'en sortent. En même temps, faut pas non plus que les joueurs deviennent trop conscients qu'il y a ce niveau de talent-là et qu'ils peuvent s'en sortir. Là. Mais tu sais, puis l'autre chose, pour encore faire l'avocat du diable, j'achète pas tout le temps, là, disons, les excuses que les coachs ou les directeurs généraux vont nous sortir, mais j'avoue que la phrase de Bergevin qui dit « la seule équipe des dernières années qu'il n'y a pas eu d'adversité, c'est Tampa Bay, puis ils sont fait sortir en 4 par Columbus. c'est pas fou pareil.
Y a-tu mentionné ce bout-là qui s'était fait sortir en 4 contre Columbus?
Exact. Puis c'est quand même pas fou. Je dis, ça reste que, tu sais, nous, on a les dedans, puis on voit cette séquence-là. C'est vrai que le Canadien a mal joué depuis 5 matchs, mais en même temps, je suis convaincu qu'ailleurs dans la Ligue nationale, il y a beaucoup de bonnes équipes qui vont passer des séquences comme ça. Puis en plus, des gens qui vont regarder le Canadien de l'extérieur sans nécessairement avoir vu les matchs, vont justement voir une équipe qui a perdu 3 matchs sur 5. Bon, OK, oui, une défaite contre Ottawa, pas la meilleure séquence, mais pas catastrophique non plus. De l'extérieur, c'est pas si mal. Nous, on a bien vu là en les voyant aller que c'était pas une belle séquence de match, mais ça reste que c'est le genre de truc, je pense, qui doit quand même arriver dans plusieurs équipes toutes les années.
Mais Guillaume, si je veux juste ajouter quelque chose là-dessus, moi, dans cette séquence de 5 matchs-là où c'était plus difficile, moi, de voir l'avantage numérique puis le désavantage, connaître des difficultés, je pense que c'est normal. Pas moins le désavantage numérique, mais l'avantage numérique, c'est normal que ça arrive à un moment donné qu'il y ait un passage à vide. Mais à 5 contre 5, le niveau de compétition qui ne soit pas là pendant, selon moi, là, pendant au moins 4 matchs là-dessus, je me dis, là, à un moment donné, il va falloir, tu sais, juste réaliser, tu sais, quand tu commences à te trouver bon, puis combien de fois on le dit, là, quand tu commences à te trouver bon, c'est là que tu te trompes.
Ouais.
Fait que donc,
faut éviter ça. Ouais, mais là, ça fait 5 games en ligne, là, que t'es moins bon, là.
Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, ça prend du temps de réaliser, ça a l'air. Mais tu sais, réalise que t'as besoin de travailler, puis t'as besoin à 5 contre 5 d'être premier sur la rondelle. Tu sais, t'as besoin de générer quelque chose, parce que là, il se passait rien. Hey, dans le match contre Toronto, dans les deux premières périodes, il n'y avait pas de pénalité pour rien. Écoute, c'était le show des Leafs.
Bonne vieille game des Canadiens des 2-3 dernières années où t'as de la misère à regarder la game sans aller faire un tour sur Facebook ou Twitter ou si vous changez de poste, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Michael, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match-là samedi?
Ah, écoute, c'était désolant. Désolant. Les 40 premières minutes, là, c'était manque de caractère. Puis pourtant, ça contrastait tellement avec ce qu'on avait vu du Canadien depuis le début de la saison. Tu sais, écoute, j'avais même souligné que l'équipe faisait preuve de caractère, puis trouvait le moyen de rebondir, puis tout ça. Là, il se passait rien. C'était sans... On dirait une équipe un peu sans âme. Puis, tu sais, je pense que c'est comme un... Si ça peut servir de wake-up call, tout ça, là, tant mieux. Puis d'ici de l'adversité, c'est toujours bon d'en avoir. Puis moi, j'achète ça là, à 100 000 à l'heure. Mais le problème, c'est que il faut passer de la parole aux actes à un certain moment donné aussi. Il faut passer à un autre niveau. Puis, tu sais, le constat, c'est peut-être que la division canadienne n'est pas si forte que ça. C'est le fun, les matchs contre Vancouver, mais il y a quand même de bons clubs de hockey aussi dans la division. Puis, si le Canadien veut faire du chemin éventuellement, ben peut-être que la division n'est pas si forte que ça, mais l'équipe doit trouver une façon d'élever, elle, son niveau de compétition, d'élever son jeu pour essayer d'arriver prête pour ce qui va s'en venir par la suite. Donc, en tout cas, moi, je vraiment, après les 40 premières minutes du match le samedi, je me disais, ouf, l'équipe est vraiment, vraiment retombée sur ses talons. Puis là, elle a perdu confiance. C'était aussi une question de confiance. Là.
Il y avait 11 tirs au filet après 2 périodes. Fait que ça fait à peu près un tir aux 4 minutes. Mais là, t'as le temps de t'endormir en tabarouette dans ton sofa. Là.
Mais au-delà de l'attaque, moi, ce qui me renversait de ce match-là, puis surtout en première période, c'était Mitch Marner avait l'air de jouer dans une cour d'école. Écoute, il était tout seul tout le temps. Je peux pas croire que aussi souvent les 5 joueurs sur la glace, il y a personne qui pensait à suivre Mitch Marner de plus près que ça. Ça avait aucun sens. Ouais. Ça vraiment.
Encore
ça
faut-il être capable. Bon, j'avais un dernier sujet, mais je pense que Marc Bergevin a clairé ça un peu dans son point de presse. En fait, c'est que avec la journée de congé, je me disais, si t'as à procéder à une transaction, c'est peut-être le moment idéal de le faire parce que le joueur que tu vas aller chercher va manquer moins de matchs. La question a été posée justement à Marc Bergevin ce matin et il nous a dit, écoutez, c'est vraiment compliqué les transactions cette année avec la COVID. C'est encore pire que c'était dans le passé. Il y a cette période d'isolement et tout ça, donc je pense qu'on va laisser faire. Je ne pense pas que le Canadien va procéder à des transactions majeures là, d'ici la fin de la saison. C'est juste, tu sais, comme il dit... Tu ramasses le joueur pendant 2 semaines, c'est sûr qu'il joue pas. Après ça, il faut quand même qu'il se remette en forme. Fait que là, c'est 5, 6, 7 matchs que le gars, il joue pas. Donc,
sur une saison de 56 en plus.
En plus, messieurs, là, c'est parce qu'il foutait un besoin. Tu vois-tu, il foutait un besoin. C'est le fun, là, qu'on parle de transactions. Mais, tu sais, on n'a pas, à mon avis, exploité le plein potentiel du Canadien présentement. Tu sais, il y a des gars qui sont, il y a de l'amélioration à avoir. Tu sais, Philippe Dano, Tatar, on l'a dit. Michael a parlé de Jonathan Drouin. Oui, il peut marquer plus de buts. Mais, tu sais, il y a du stock à avoir,
combien,
là.
Combien de buts? C'est 1, je pense.
Exact.
Ouais, but, mais il y a quand même beaucoup de passes. Moi Drouin, il fait pas partie de, il est pas au banc des accusés, à mon avis.
Non, c'est ça. Tu sais, puis les défenseurs peuvent être mieux. Puis il y a de la place. place. Il y a de la place, tu sais. Puis en plus, Bergevin qui va dire publiquement, tu sais, l'agent de Mété, là, c'est pas un agent qui va venir nous dire quand on va échanger un joueur ou quoi que ce soit. C'est nous autres qui décide. Fait que là, t'as Victor Mété qui a été sur ton premier pairing pendant 2 ans, qui se retrouve comme 7e défense. Je pense qu'il y a de la place, là. Fait qu'avant de parler de transaction, laissons ce qui est en train de se mettre en place, s'établir, se solidifier. Puis vous allez voir, quand il va y avoir des 4 matchs durant une semaine, là, on va en avoir besoin de tout le monde. Ouais. Fait donc, on se calme le pompon puis on laisse aller jouer les gars un peu.
Écoute, c'était juste une question de logistique dans le fond.
Ça aurait
été plus logique de procéder à une transaction cette semaine que, disons, la semaine prochaine ou la semaine suivante. Bon, les gars, on va faire une petite pause et au retour de ceci, on va parler des sujets qui nous intéressent ailleurs dans la Ligue nationale. Alors, nous voilà de retour et on a eu une information, en fait, cette information qui est tombée ce week-end concernant Alex Galchenyuk, qui encore une fois a été échangé, cette fois-ci des Sénateurs aux Hurricanes. C'est sa 6e organisation depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Et en plus, ce matin, étant donné qu'il y a personne qui l'a réclamé au balotage, imaginez-vous, là, Galchenyuk, là, qui a été 3e choix au repêchage en 2012, a été ignoré au balotage, et non seulement ça, on l'a même pas mis sur le taxi squad du côté des Hurricanes, on l'a tout simplement envoyé dans les ligues mineures cet après-midi. Que penser de ce dossier-là? Je vais commencer avec toi, Michael. L'année 2012 n'a pas été, disons, une grande année de repêchage. Il y a eu d'autres déceptions aussi. Mais de voir à quel point il est rendu creux et bas et profond, Alex Galchenyuk, c'est quand même assez surprenant. La dégringolade est incroyable.
C'est hallucinant. C'est une chute aux enfers. Écoute, tu sais, oui, c'est vrai que tu regardes un petit peu les statistiques de la QV 2012 et tout ça, mais dans son début de carrière, c'était quand même un joueur, tu sais, qui était capable de marquer 20, 25, 30 buts dans la Ligue nationale, puis il était capable de tirer son épingle du jeu. Mais là, écoute, tu regardes ces chiffres-là, ça baisse, là, comme ça fond comme neige au soleil. C'est un bon joueur de hockey, Alex Galchenyuk. C'est pour ça que même moi, je suis étonné de voir à quel point il est rendu bas. Son entourage, son attitude, c'est, tu sais, on manque quasiment d'explications pour trouver pourquoi il en est rendu aussi bas. C'est un peu triste parce que tu regardes le joueur de hockey qu'il est, il a tout pour réussir, là, tout pour être un bon joueur de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'est un joueur élite? Je pense pas. Mais c'est un bon joueur, il y a du talent, il y a tout ce qu'il faut, là. T'sais, donc c'est un peu triste. Moi, je regarde où est-ce qu'il est rendu, puis j'aurais pas pensé que ça aurait été ce genre de chute-là, surtout après les 2-3 premières saisons qu'il avait connues dans la Ligue nationale.
5 saisons consécutives entre 40 et 60 points. Donc 2017-2018 Canadien, 2018-2019 Arizona, 2019-2020 les Penguins de Pittsburgh et le Wild du Minnesota. Cette année, Ottawa est maintenant déjà échangé aux Hurricanes. Là, il se retrouve avec les Wolves de Chicago. Je suis à ça, mais j'en reviens pas. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais en fait, moi, je trouve que le problème de Galchenyuk, c'est qu'il y a des outils, mais il s'en sert pas. Tu sais, c'est un bon patineur, mais c'est pas un joueur qui sert nécessairement de son coup de patin. À l'inverse, même, on le sent plus à l'aise quand il ralentit le jeu. Tu sais, combien de fois qu'on le voit en zone adverse, quand il arrive, puis là, c'est ça, il ralentit, il lève un peu les épaules, fait des petites feintes et essaie de s'en tirer. Mais dans la Ligue nationale, maintenant, ça... Tu peux pas jouer comme ça, tu sais, faut que tu te serves de ta vitesse. Non. Et lui, je trouve, s'en sert pas assez. Donc ça, c'est une chose. Puis l'autre outil qu'il a, c'est un bon gabarit, 6 pieds 1, 207. Mais ça, on le sait, mais ça même quand il était plus jeune, ça a jamais été une de ses forces de nécessairement se servir de ce gabarit-là. Donc, je veux dire, ce qui lui reste comme outil et dont il sert, ben, c'est un bon tir. Mais comme il se sert pas de ses autres outils, on l'a vu, là, dans les matchs des Sénateurs contre le Canadien, ses tirs, il prend rarement dans des positions où il va avoir une vraie chance de marquer. Tu sais, ses tirs, il les faisait de loin, jamais depuis le milieu de la patinoire. Donc, Carey Price faisait les arrêts là, sans trop de problèmes.
Je pense qu'aussi, entre les deux oreilles, les gars, il y a un problème. Tu sais, c'est peut-être un gars qui écoute pas. C'est peut-être un gars qui est, comme on dit au Québec, dur de compreneur. Parce que quand t'as 5 clubs en ligne là, qui abandonnent sur 3 aussi rapidement que ça, là, c'est un signe. Là. À un moment donné, Joël ça peut Bouchard. Pas toujours être eux. Là.
Joël Bouchard, il dit souvent, hey, ça, c'est un joueur de hockey. Il va te dire, ça, c'est un joueur de hockey ou il n'y a pas de l'air d'un joueur de hockey. Et tu te poses la question, Alex Galchenyuk, c'est-tu un joueur de hockey? Ça, ça comprend ce qui se passe sur la patinoire, puis ça comprend ce qui se passe à l'extérieur de la patinoire. Puis là, je parle pas de party, je parle pas de, je parle de comment le joueur est prêt à se sacrifier à l'extérieur de la patinoire pour être sûr que son jeu soit A1 plus sur la glace. Tu sais, je suis pas convaincu que Galchenyuk est dans cet état d'esprit. Je pense que le gars doit réaliser que ça sent la fin pour lui dans la Ligue nationale de hockey. Il y aura toujours la KHL, il y aura toujours un...
La Suisse, il va aller jouer en Suisse. En Suisse, il pourrait compter comme un joueur national en plus. Bon, en Suisse, on ne me compterait même pas comme un étranger.
Il va pouvoir aller rejoindre Neil Yakupov. Ils vont pouvoir se donner la main.
Ben, tu vois, Yakupov, là, c'en est un bon exemple. Moi, j'étais là au repêchage à Pittsburgh quand Yakupov a été premier sélectionné au total. Puis ce gars-là, écoute, on était sur un bateau. Je sais pas si Guillaume, t'étais là.
Oui, j'étais là.
Un bateau. Tu te souviens, là, les gars étaient sur le bateau.
Les pieds qui brûlaient sur le bateau, je m'en souviens.
Exactement. Et là, t'as Yakupov qui est là, la casquette par en arrière, qui nous regardait comme si on était des plaies humaines. Puis, tu sais, il avait tellement pas le goût de nous parler. Tu fais, toi, t'as pas encore joué un match en Ligue nationale. Puis, t'as cette attitude-là. Attends, mec, tu commences à jouer. On l'a vu, ça a pas fonctionné. Dans le cas de Galchenyuk, on se disait, ah, la blessure au genou. S'il avait pas été blessé au genou, il aurait peut-être pu sortir premier. Fait que donc, lui, il était rempli d'espoir. Un père un peu intense avec lui. Une semaine plus tard.
Un peu, tu dis.
C'est ça. Mais tu sais, c'est ça l'histoire, là.
Il allait encore le regarder à l'arrêt. Même jusqu'à sa dernière année avec le Canadien, on voyait encore le père de Galchenyuk d'un gradin pendant les entraînements. Des fois sur la route. Moi, une fois, j'ai pris un vol Toronto-Columbus parce que le père allait voir le match contre Toronto, puis après ça, le match contre Columbus. Voyons,
c'est
ça quand ton gars il est à tombe, pas quand il est rentré.
Je pense que je ferais pareil. Si t'es mon fils, là, je serais partout tout le temps.
Attendez une minute, même Guillaume, là, tu fais pas ça quand un jeune est à tombe parce que tu vas briser ton kid. Tu peux pas.
Non, je sais, je parle juste de la présence au match et aux entraînements surtout.
On sait que la situation familiale était pas évidente.
C'était pas évident, ça a brisé le kid. Le kid, à un moment donné, t'as le goût de dire, moi je vais me dissocier de mon père. Ok, bon, là je me ramasse tout seul, j'ai-tu la maturité, tu ramasses avec le party à gauche pas à droite. Tu sais, en quelque part, il n'y a rien pour lui, mais maintenant, il est plus vieux.
Tu te retrouves avec Chanel dans ton entourage.
À manger, Chanel. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le gars est rendu plus vieux, puis là, faut que tu te prennes en main, là. Ça t'appartient à toi, là. Ça t'appartient à ce que tu veux faire avec la suite des choses. Ce gars-là est rempli de talent. Encore aujourd'hui, je vous le dis, j'ai vu le match entre le Canadien et les Sénateurs quand c'était au Centre Bell. La première présence qui a embarqué sa glace, cling, cling, tout feu, tout flamme, mon Dieu, il est en forme, c'était la seule présence, après on l'a plus vu. Tu sais, fait que donc, en quelque part, donne-toi une chance. Si tu veux réussir, assure-toi d'être assez mature pour comprendre qu'il faut que tu changes certaines affaires dans ton entourage, parce que sinon, ça pourra pas fonctionner.
Bon, les gars, faut parler un petit peu de Mikko Koivu, parce que la semaine passée, on n'a pas eu le temps d'en parler. Je voulais le mettre dans mes sujets, mais on était un peu serré avec d'autres choses. Mais je veux quand même qu'on revienne sur la décision de Mikko Koivu de prendre sa retraite, parce que, veut pas, ça fait un autre gros nom, entre guillemets. On parle d'un gars qui a joué plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale. Tourner le dos un peu sur les Blue Jackets, décide de prendre sa retraite. Il y avait probablement un peu d'insatisfaction de son utilisation, jouait pas beaucoup. A admis lui-même dans son propre point de presse qu'il était plus nécessairement capable de jouer de la façon dont lui voulait jouer. Est-ce que Mikko Koivu, a parlé de façon politically correct, ou est-ce que c'est tout simplement un autre grand joueur de la Ligue nationale, si on peut l'appeler comme ça, à tourner le dos à John Tortorella?
Je sais pas si c'est très dur à dire de l'extérieur, là, premièrement. Évidemment, on a seulement accès à ce qui s'est dit dans les conférences de presse. Je crois pas que Tortorella était nécessairement sur son dos. Je pense que Mikko Koivu est quand même le type de joueur que John Tortorella va apprécier, là. Donc, tu sais, je crois pas. Tu sais, c'est un travaillant, il est acharné, tout ça, et c'est un joueur très responsable. Donc, tu sais, je pense qu'il y a des qualités que Tortorella aime. Alors, je ne sais pas si c'est ça. En même temps, la saison dernière au Minnesota, là, son temps de glace avait descendu à 15 minutes. Avant ça, il jouait 18 minutes chaque année. Là, il est descendu à 15, 4 buts en 55 matchs. Je me demande plus quelles étaient les attentes des Blue Jackets de dire on va le faire venir comme troisième centre. C'était pas un joueur qui était la trajectoire de sa carrière, là, à 37 ans, 38 au mois de mars, et avec son rendement en baisse, ça m'indiquait pas un joueur capable d'être centre de troisième trio dans une bonne équipe.
Et Michael, j'écoutais le point de presse et il disait, tu sais, la à sa situation familiale, que sa famille n'était pas avec lui à Columbus et tout ça. Tu penses que le gars s'est peut-être dit, ben tant qu'à jouer une game sur quatre, puis jouer 10 minutes, puis m'ennuyer de ma famille, je serais peut-être mieux de juste passer à d'autres choses.
Non, c'est ça, puis exactement. Puis dans le genre d'équipe que les Jackets sont, moi, je voyais moins le fit, là, tu sais, sincèrement. Puis écoute, 9-37, son dernier match, ça l'a peut-être futé, là, il s'est dit, c'est trop. Mais tu sais, tu regardes quand même la tangente de ce gars-là, la tendance, depuis 3-4 ans, là, ça ne fait que diminuer, tout ça. Donc, écoute, moi, je pense que c'est une sage décision. Des fois, tu sais, à trop étirer quelque chose, ça donne pas nécessairement les résultats. Puis, donc, en tout cas, je suis pas renversé de ça. Moi, je trouvais que le fit était plus ou moins... je comprenais pas la décision, mais bref, ça s'est peut-être réglé de par soi-même.
Bon. Mais juste dire que dans son communiqué sur les réseaux sociaux, à sa deuxième phrase dans le texte qui est publié par les Blue Jackets de Columbus, il est inscrit « J'ai aimé chaque seconde de ma présence avec les Blue Jackets de Columbus ». Et ça, c'est encadré en rouge. Fait que donc, c'était pour qu'on comprenne le message. C'est pas de notre faute, s'il part.
Bon, parfait. OK, ben les Pingouins sont peut-être à la recherche d'un autre gardien de but. Et là, écoutez, ça a été tellement une histoire... Roman Savon, les Pingouins de Pittsburgh avec leur histoire de gardien de but depuis quelques années, avec le fait qu'on a trouvé une entente avec les Golden Knights pour qu'ils prennent Marc-André Fleury qui avait un très gros salaire. On a préféré garder Matt Murray qui venait gagner 2 coupes. Là, on le laisse partir. Il s'en va avec les Sénateurs d'Ottawa. Et là, on pense que Jarry va être l'homme de la situation, mais on n'est plus certain. Et là, les rumeurs sont reparties plus belles parce que du côté des Golden Knights, on a 2 gardiens qui gagnent, je crois que c'est 14 millions à eux deux ensemble. 12 millions, OK.
C'est quand même beaucoup.
c'est beaucoup, exactement. Et là, la question qui revient sur toutes les lèvres, est-ce que les Pingouins auraient de l'intérêt pour rapatrier Marc-André Fleury? Ça dirait quoi de l'organisation? Vous allez me dire, c'est plus le même monde qui gère le club. Correct. Mais est-ce qu'on peut rêver un retour de Marc-André Fleury avec les Pingouins de Pittsburgh? Ça va quand même bien avec les Golden Knights présentement.
Ça dirait, excusez-moi là, je prends balle au bon, c'est un gars de Sorel, faut que je parle en premier là.
OK, parfait. Vas-y.
OK, ça dirait qu'on va corriger l'erreur qu'on a faite. On n'aurait jamais dû laisser partir Marc-André Fleury parce que ce gars-là, selon moi, amène beaucoup plus que juste une performance sur la glace. Puis on le sait, avec les Pingouins, par moment, les performances étaient en dents de scie. Ça n'allait pas numéro un. Mm-hmm. Mais il y a tellement un noyau qui était solide. Il y avait une énergie positive qui l'amenait dans ce vestiaire-là. Ça faisait en sorte que les gars croyaient en leurs possibilités parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, Flower va arriver puis sortir une performance pas possible. Mm-hmm. Puis ils vont être capables d'en marquer 6, même s'ils s'enfoncent score 5, ils vont aller à l'arrêt du siècle qui va faire qu'ils vont gagner le match 5. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, dans les séries, entre les Pingouins et les Flyers de Philadelphie, c'est du hockey dans la rue, là. Ouais. Et ça a juste pas de bon sens. Ouais. Sauf que là, si tu ramènes ça, moi, je pense que à court terme, je pense que ça peut repartir une étincelle. Moi, je le ferais. J'étais du côté des Pingouins, moi, je le ferais.
Moi, Michael, j'ai compris le move, excusez l'expression, j'ai compris la décision qu'on avait prise lorsqu'on l'a envoyé avec les Golden Knights. On venait de gagner 2 coupes avec Matt Murray. Mais je comprendrais aussi le désir de le ramener. Puis il lui reste une année. Hein? Après cette année, c'est pas comme s'il reste 3-4 ans. Là, ouais. Donc,
mais non, par c'est contre, ça. Puis c'est un gars qui est apprécié en plus des partisans. Ouais. Je comprends que tu sais, il y a pas de gens d'ingradin, mais ça demeure. Moi, je sais pas. C'est un coup d'éclat. Puis en même temps, je pense que c'est le genre de petite étincelle qui peut amener quelque chose d'autre aussi chez les Pingouins.
Bon, un petit commentaire, les gars, sur Tony DeAngelo qui jure maintenant dans une entrevue qu'il a donnée, je crois que c'était au New York Post,
exactement,
Larry Brooks, qu'il a appris sa leçon, qu'il n'a pas toujours pris les bonnes décisions, qu'il s'est pas toujours exprimé de la bonne façon et tout ça. Je pense qu'il espère qu'une équipe lui donne une chance. Les Rangers, on dit quasiment publiquement là, qu'on était à la recherche d'un preneur pour lui. Il touche 3,7 millions de dollars cette année et doit en gagner 4,8 l'année prochaine. Si jamais on n'est pas capable de trouver preneur et on veut vraiment plus l'avoir dans le vestiaire, on va être obligé de le racheter. Ça va coûter cher. Est-ce que vous croyez aux chances de voir DeAngelo réapparaître ailleurs dans la Ligue nationale?
Ben, disons que cette entrevue-là me laisse croire qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'il réapparaisse à quelque part. On s'entend, je veux dire, regardez, Larry Brooks a parlé aux joueurs, il a parlé à son agent, il y a des coéipiers qui sont venus le défendre, tout ça.
Stahl aussi a dit...
Mark Stahl, exact, c'est ça.
C'est pas vrai de penser penser que c'est un raciste, entre guillemets.
Ben, c'est ça, exactement. Donc, c'est clairement, j'ai comme, on dirait presque que les Rangers sont peut-être rendus compte qu'ils ont peut-être été trop loin et qu'ils ont aussi un cas à gérer. Le problème dans tout ça, c'est qu'on connaît pas tout, là. Je veux dire, il y a eu des allégations, des rumeurs, tout ça. On sait toujours pas ce qu'il en était exactement de l'incident avec Keandre Miller. Ils ont tenté de défendre ça, mais c'est clairement, je pense, la chose qui bloque le plus ce qui se passe, parce que cet incident-là de nature raciste avec Keandre Miller, du moins ce qui est allégué, c'est ce qui fait en sorte que le joueur est un peu radioactif là ailleurs dans la Ligue nationale, et qu'il n'y a aucune équipe qui va prendre la mauvaise chance, publicité qui viendrait avec le fait de donner une chance à un joueur qui aurait eu des comportements racistes.
Il y a des marchés qui ont tellement pas de couverture que je pense que ça passerait tout droit, là, ils s'en rendraient même pas compte, là, mais ça c'était une autre histoire. Non, t'es pas d'accord.
Ben, écoute, les Coyotes de l'Arizona, ça a pas passé inaperçu leur choix au repêchage, donc
t'as raison.
C'est la preuve.
Il y a tout le temps quelqu'un qui fouille en quelque part.
Non, c'est ça, les équipes peuvent pas s'en tirer, honnêtement. Ouais. Je pense que maintenant c'est ça, là, tu peux pas cacher des gestes comme ça, là.
Mais moi, je pense qu'il y a des gars, dans la Ligue nationale qui sont des gars brillants. Il y a des gars brillants. Puis il y a du monde comme tout le monde, tu sais, des fois qui font des bons gestes puis des mauvais gestes. Puis t'as des gars qui sont pas nécessairement les plus wise. Puis D'Angelo, c'en est un. Le problème, c'est parce qu'à cette heure, ils peuvent publier ce qu'ils pensent tout le temps, tu sais. Fait que donc, s'il y a un club de la Ligue nationale qui veut faire affaire avec lui, il va falloir qu'il y ait des restrictions très, très, très dures à son égard. C'est les réseaux sociaux, t'oublies ça. T'oublies un paquet d'affaires, puis si t'es prêt à concentrer, ouais, à jouer au hockey. Mais il y a tout le temps, à mon avis, tout le temps, un club désespéré. Il y a un directeur général qui pense qu'il, lui, va changer un joueur, ou un coach qui pense qu'il va changer un joueur. Fait que, d'après moi, il va pas rester trop longtemps inactif.
OK. Bon, on verra. On va prendre une petite pause. On va faire une petite pause, les gars. Et tout de suite après, on va y aller avec les questions du public. Alors, nous voilà de retour. Deux questions du public pour compléter l'émission d'aujourd'hui. Je sais pas qui veut prendre la balle au bon, mais je vous lance la question de Félix Lessard. Marc Bergevin devrait-il considérer l'option d'échanger Thomas Tatar à la date limite des transactions et récupérer des, entre guillemets, assets intéressants, considérant ses statistiques des deux dernières saisons et son salaire, ou le garder pour être all-in en série cette année et prendre le risque de le perdre pour rien? C'est une foutue de bonne question, et je pense qu'en temps normal, on se la posait, mais je pense que cette année, je pense que le Canadien va essayer d'aller le plus loin possible.
Ben c'est ça.
Je me surprendrais de les voir vendre des joueurs.
Exactement. D'un côté, premièrement, un joueur que tu laisses de côté comme ça, tu ne maximises pas exactement sa valeur si tu veux l'échanger. Donc ça, c'est une chose. Là, c'est pas jusqu'ici, c'est pas le Thomas Tatar des deux dernières années. Et l'autre chose, effectivement, je pense que le Canadien est relativement all-in cette année. Alors, tu sais, tant qu'à l'échanger pour aller chercher des jeunes, et après ça, tu fais quoi? Tu vas faire une autre transaction pour aller chercher un autre ailier top 6 qui, lui, va devoir faire une quarantaine, s'intégrer, est-ce que ça va bien marcher? Je pense que tes meilleures chances de succès sont de le garder, d'espérer que la magie reprenne avec Philippe Dano et Brendan Gallagher. Et puis ensuite, ben, si tu as le perdre pour rien, tu le perdras pour rien, mais au moins, il va t'avoir aidé pour la saison. Et oui, tu le perds pour rien, mais tu vas gagner de l'espace sur ton plafond salarial l'an prochain.
Puis ne serait-ce que juste de faire, si tu gagnes pas la coupe, mais si tu fais 2-3 rondes en série, je pense que les partisans vont aussi beaucoup apprécier. Et Thomas Tatar peut t'aider à ce niveau-là, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
Ben, je suis assez d'accord, moi, mais ben, tu sais, je te laisse aller, mec, tout de suite après. Mais ce que je veux dire, c'est que présentement, c'est tellement de bonheur, là. On ne sait pas comment le Canadien va réagir. On pense que tout le monde, que le Canadien va être en série. Tout à coup, que ça marche pas, là, tu peux bouger. Mais si ça marche, tu veux le laisser aller. Tu veux pas le laisser aller, tu veux le garder pour aller le plus loin possible pour lui. Moi, je pense que. Puis, pas mal d'accord avec vous autres. Je pense que tout le monde est all-in cette année. C'est, on va y aller le plus loin possible, puis on va essayer de sortir de la division. Oui. C'est ça l'objectif.
Oui, absolument. Michael, là-dessus?
Je suis d'accord avec vous autres. Dans le fond, moi, j'ajouterais que moi, j'ai encore des réponses à avoir de Thomas Tatar. Je veux voir ce qu'il y a dans le corps, là, ce qu'il va nous donner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour après ça prendre des décisions. On fait qui, avec quoi, puis on fait quoi avec qui, puis on décide, on s'engage avec qui à long terme, justement dans le but de quel résultat pour aller gagner. Dans le fond, c'est l'objectif, c'est de gagner dans les séries, puis on veut voir si Thomas Tatar est capable justement de conduire le Canadien vers les séries puis de gagner en série.
Bon, question ensuite de Max Clermont qui dit « Kotkaniemi devrait-il être placé avec des alliés plus offensifs? » Exemple, Toffoli, Gallagher. Et ensuite de ça, il parle de mettre Dano avec Lekkonen et Armia. Ça pourrait faire un bon shutdown line. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que Kotkaniemi devrait jouer avec des joueurs plus...
Moi, j'adore l'idée. Honnêtement, j'adore l'idée. Puis savez-vous quoi? Si tu dis à Philippe Dano, regarde, on va essayer, puis on va te mettre contre les meilleurs trios, moi, je le ferais, dépendamment. Si Dano continue avec aucun but,
ouais,
go, fais-le, puis mets-le, Kéké, avec des meilleurs joueurs. Fais le test, c'est ça, c'est un long processus pour te rendre jusqu'en série. Fait que pourquoi pas? Why not? Essaye-le.
Ouais, écoute, c'est sûr que là, Dano, dans les dernières années, nous a quand même répété à plusieurs reprises qu'il voulait pas jouer un rôle de shutdown.
Ben ouais, mais c'est pas lui qui décide, là.
Ben oui, tout à fait. En fait, ça réglerait aussi peut-être un peu un des problèmes de Kotkaniemi, c'est que là, en ce moment, il est dans un troisième trio, mais c'est pas un troisième trio shutdown, justement, parce que Kotkaniemi a pas encore développé les habiletés exactes à neutraliser les meilleurs éléments adverses. Donc, il est pas shutdown, mais en même temps, il y a pas non plus de bons alliés offensifs avec lui. Il y a eu Tyler Toffoli en début d'année, ça a fonctionné, mais en même temps, bon, on est en train de réaliser que ça peut-être fonctionnait en partie parce que Vancouver était pas capable de jouer.
Ouais.
Donc, disons qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais oui, il y a peut-être quelque chose que le Canadien pourrait essayer là. D'ailleurs, ça, en série l'année passée, ben, ça avait quand même fonctionné quand Julien a placé Dano avec Lekkonen et Byron. Et c'est ça, c'était un vrai trio shutdown.
Exact.
Ça avait été efficace, même si ça faisait peut-être pas le bonheur là, de Dano.
Bon, ben les gars, on a fait le tour de la question, je crois. Encore une fois, merci d'avoir été là avec nous pour cet épisode de Sortie de zone. Guillaume Lefrançois, Jérémy Rainville, Michael Lalancette, merci. On se retrouve bien sûr vendredi pour un autre épisode. Merci aussi à Claude Hébert du côté de la mise en onde. Mon nom, c'est Jérémy Filosan. On vous retrouve sans faute vendredi pour une autre émission. Salut tout le monde. Bonne semaine.